Le journal d'Yves Decamp. Bonjour Yves.
Bonjour.
L'état d'urgence sanitaire sera prolongé de 2 mois. Le projet de loi qui fixe les nouvelles règles de vie d'après le confinement est présenté en ce moment même en Conseil des ministres. Il ne prévoit aucune contrainte pour l'isolement des personnes contaminées qui devront prendre leurs responsabilités. D'où viennent ces stocks de masques annoncés par les grandes surfaces et pourquoi n'ont-ils pas été distribués aux soignants qui en avaient besoin? Les professionnels de santé s'offusquent, que nous serons avec une pharmacienne dans un instant. La grande distribution dénonce une polémique indigne. Nous entendrons l'un de ses représentants. Dans ce journal également, des plages ouvertes ou fermées, laissons les maires décider, répond le président du Conseil régional de Bretagne. 2 milliards d'euros de manque à gagner pour la SNCF depuis le début de l'épidémie. Son président Jean-Pierre Farandou sur France Inter demande aux entreprises de favoriser le télétravail pour faciliter la reprise du trafic. Le prix du livre Inter, rendez-vous tous les samedis avec l'un des auteurs en compétition. Aujourd'hui, Vincent Message pour Cora dans la spirale, édité au Seuil. Il sera l'invité tout à l'heure d'Eva Bétan. Et puis la météo, de la pluie, surtout dans la partie centrale du pays. À 13h30, CO2, mon amour, Denis Chessou et son ami La Rose.
France Inter.
C'était attendu depuis le premier vote. L'état d'urgence sanitaire sera donc prolongé de 2 mois jusqu'au 24 juillet. Le projet de loi sera soumis au Sénat dès lundi et transmis à l'Assemblée nationale dans la foulée pour être adopté si possible dans la semaine. Il est présenté en ce moment même au Conseil des ministres. Le texte doit organiser les nouvelles règles de vie du déconfinement en direction notamment des personnes testées positives. Faudra-t-il les contraindre à s'isoler ou leur faire confiance? Ce sera finalement de la responsabilité de chacun, Karine Bécard.
En fait, ce n'est pas parce que nous allons bientôt entrer dans la phase de déconfinement que nous ne serons plus pour autant sous le régime d'état d'urgence sanitaire. Au contraire, voilà pourquoi le Conseil des ministres, ce midi, est en train d'examiner un texte pour prolonger cet état d'urgence. Mais un texte qui a été en partie réécrit, notamment en ce qui concerne son article 2. Autrement dit, les préfets ne pourront plus contraindre une personne contaminée à s'isoler. C'est ce que ce texte prévoyait initialement, ce qui a beaucoup crispé toute l'aile gauche de la majorité, qui a rappelé que constitutionnellement, une privation de liberté, comme être obligé de s'isoler, comme ne plus avoir le droit de se déplacer, ne peut être décidée que par un juge et certainement pas par un préfet. Le gouvernement a donc accepté de rétro-pédaler, ce qui signifie que dans le texte pour prolonger l'état d'urgence sanitaire, il est désormais précisé que toute mesure d'isolement doit simplement être expliquée, consentie et accompagnée. Autrement dit, l'État consent à s'appuyer sur la responsabilité de chacun. En fait, seuls les nouveaux entrants sur le territoire français pourront se retrouver coincés par une mise en quarantaine forcée.
Karine Bécard, en rappelant les derniers chiffres de l'épidémie, 218 décès supplémentaires ces dernières 24 heures, près de 24 600 morts au total. Alors pour stopper ou limiter la circulation du virus, on sait maintenant qu'il faudra des masques pour tout le monde à l'école, dans les transports, les entreprises ou pour faire ses courses. Des masques qui seront disponibles en pharmacie, c'est déjà en partie le cas, et dans les grandes surfaces à partir de lundi. C'est là que le bas blesse. L'annonce par les grandes enseignes des stocks de masques qu'elles vont mettre à disposition du public a choqué les professionnels de la santé, médecins, pharmaciens, infirmières, kinés, auxquels les masques ont été comptés et le sont encore par endroits. Où étaient ces stocks quand eux, les soignants ou les patients les plus fragiles en avaient besoin? On entendra dans un instant la colère d'une pharmacienne invitée de ce journal. D'abord, que répondent les intéressés, représentants des grandes surfaces? Jacques Cressel, président de la Fédération du commerce et de la grande distribution, il est avec Jules Dequis.
Il n'y a pas de stock caché. Les masques qui ont été commandés représentent effectivement une masse importante, mais ce sont des commandes. Tous les chiffres qui ont été donnés, ce sont des masques qui vont arriver progressivement. Nous avons acheté ces masques à la demande des pouvoirs publics, comme d'ailleurs les pharmaciens ont le droit de le faire, comme les buralistes ont le droit de le faire, afin de les vendre et de faciliter ainsi le déconfinement des Français. C'est une mission de service public. Nous allons d'ailleurs le faire dans des conditions qui ne sont pas des conditions commerciales, mais avec des prix qui seront des prix coûtants, c'est-à-dire que nous vendons sans marge ces produits. Aujourd'hui, il y a quelques millions de masques qui sont prêts à la vente, qui sont d'abord et avant tout des masques à usage unique. Les masques en tissu vont arriver progressivement parce qu'il fallait le temps de les faire fabriquer dans des usines textiles en France ou à l'étranger. Je rappelle que par ailleurs, l'État de son côté a commandé 3 milliards de masques pour les soignants. Nous nous battons nuit et jour pour y arriver. Et se faire critiquer de cette façon-là, très franchement, on trouve ça extrêmement désagréable.
Alors, il n'y a pas eu de stock de masques cachés, expliquait aussi hier soir le directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Ce qu'a confirmé ce matin sur France Inter, la secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, que les stocks d'aujourd'hui ont été constitués au compte-gouttes au fil des commandes passées ces dernières semaines. Malgré tout, une sénatrice du mouvement radical demande la constitution d'une commission d'enquête pour faire la transparence sur cet état de fait. Invitée de ce journal, la députée du mouvement Agir, Agnès Firmin-Lebaudeau, députée du Havre, proche d'Édouard Philippe, mais surtout, en l'occurrence, pharmacienne. Bonjour madame.
Bonjour.
D'accord pour la constitution d'une commission d'enquête ?
Je ne sais pas s'il faut aller jusqu'à une commission d'enquête. En tout cas, la chose est sûre que les professionnels de santé ont réagi face à une incompréhension totale de ces publications à des centaines de millions de masques. Et je crois que les précisions de la grande distribution aujourd'hui arrivent peut-être un peu tard. Mais je crois que les professionnels qui, depuis des semaines, gèrent au compte-gouttes, distribuent 6 par 6 les masques à tous les intervenants dans tous les établissements et en milieu libéral, cette incompréhension, elle est légitime et il faut la comprendre. Je crois que maintenant, nous allons avoir besoin de tous les canaux de distribution et nous arrivons très clairement au moment compliqué où, en plus des professionnels de santé, il va falloir aussi fournir la population en masque. Et donc, la transparence la plus grande est absolument nécessaire, mais il ne s'agit vraiment pas d'opposer les uns aux autres. L'intérêt de tous, c'est bien que les professionnels continuent d'être approvisionnés, et c'est la nécessité absolue. Mais face à ça, nous avons aussi maintenant le devoir de pouvoir équiper la population. Et ce télescopage des deux canaux, c'est plutôt mal passé, puisque c'est photo avec des piles de masques, alors qu'on délivre 3 par 3 ou 6 par 6 aux professionnels de santé, est franchement mal passé.
Oui, mais vous dites que les explications de la grande distribution arrivent un peu tard, mais est-ce qu'elles vous convainquent ?
Je crois qu'il faut jouer très clairement la transparence. Le gouvernement a donné l'autorisation à la grande distribution de délivrer ces masques. Combien, quand, comment, c'est surtout ça qu'il faut dire. Plus de des centaines de millions de masques, comprenez que ce chiffre est pu, chagriné.
Elles ont anticipé la vente au grand public, c'est leur métier.
Alors après, il y a ce qu'on appelle la loi. La loi interdisait jusqu'à une certaine date de commander, parce que la loi interdisait de vendre. Donc c'est surtout ces sujets-là où il faut, j'allais dire, une plus grande transparence. Et nous allons avoir besoin de tous, parce que nous allons avoir besoin de masques pendant très longtemps. Et je crois qu'il ne faut surtout pas parler de polémique indigne. C'est juste une réaction face à un désarroi profond pour des professionnels qui se battent depuis des semaines face à une distribution qui est faite, qui s'améliore, mais qui est faite au compte-gouttes. Donc je crois qu'il faut aussi que la grande distribution entende cette réaction. C'est juste une demande de précision et de transparence. Et plus tout le monde sera transparent, mieux ce sera.
Alors vous adressez à la grande distribution, vous êtes proche d'Édouard Philippe. Qu'est-ce que vous demandez précisément sur ce point au gouvernement ?
La même chose, comme le gouvernement le fait depuis le début. Je veux dire des points très clairs sur le nombre de masques commandés. Mais on voit bien qu'il y a souvent parfois un hiatus et un delta entre la commande et la réception. La même chose. Et peut-être aussi pour les professionnels un assouplissement, puisque le stock semble s'améliorer, et c'est le cas, puisqu'on élargit aux professionnels qui vont devoir reprendre le travail à partir du 11 mai, peut-être un assouplissement dans les modes de distribution. Parce que vous imaginez bien que face au travail important, venir toutes les semaines s'approvisionner, c'est un peu compliqué. Donc peut-être, au fur et à mesure, élargir ces modes de distribution, tout en ayant un contrôle, parce qu'il faut toujours pouvoir approvisionner tout le monde et tout le temps. Alors, et dans la durée, bien sûr.
Alors ce matin, la présidente du Conseil national de votre ordre, de l'Ordre des pharmaciens, réclame la gratuité des masques chirurgicaux pour les personnes fragiles.
C'est ce quoi le Premier ministre a annoncé. Je crois qu'il l'a annoncé. Moi, je l'avais même fait lors d'une question au gouvernement. Je crois qu'il va falloir aussi que ces masques ont un coût. Ils ont un coût. Donc, collectivement, il nous faut réfléchir pour que les personnes les plus démunies d'entre nous, les plus en difficulté, puissent avoir accès à ces masques. Et bien sûr, tous les professionnels, qu'ils soient de santé ou du médico-social, pourront travailler main dans la main pour trouver une solution pour que tous puissent porter des masques lorsque sera nécessaire à partir du 11 mai.
Agnès Firmin-Lebaudeau, députée du Havre et pharmacienne. Merci beaucoup d'avoir participé à ce 13h. Le Covid, c'est à noter, peut aussi toucher les animaux, en tout cas les chats, on le savait. Mais cette fois, c'est en France qu'un chat a été infecté par son propriétaire malade du Covid. L'occasion pour l'école vétérinaire d'Alfort d'appeler ce matin les personnes présentant des symptômes à éviter tout contact avec leur animal. Parmi les interrogations qui circulent également sur la vie d'après le confinement, la question des balades sur la plage. Le hashtag « Rendez-nous la mer » est apparu sur les réseaux sociaux, car pour beaucoup d'habitants de la façade atlantique, pourtant en vert sur la carte du déconfinement, cette fermeture des plages après le 11 mai reste incompréhensible, ce que comprend lui très bien le président PS de la région Bretagne, Loïc Chesnais-Girard, qui s'en remet aux maires.
Les hommes, les femmes de Bretagne souffrent aujourd'hui de la situation de ne pas pouvoir accéder à la mer, notamment pour ceux qui habitent tout au long du littoral et pour qui la mer est leur parc, leur jardin habituel. L'objectif d'abord est de rester sérieux. Oui. L'objectif est de travailler avec les règles sanitaires qui ont été données. Et dans ce cadre-là, nous pensons que les maires pourraient avoir l'autorité d'ouvrir ou pas les plages en fonction des cas, parce qu'il y a des cas où ce n'est pas forcément souhaité, notamment dans des endroits où il y a une densité humaine très importante. Dans certains endroits, les plages, les chemins côtiers peuvent être ouverts pour qu'on puisse effectivement marcher, prendre l'air, que certains puissent s'isoler comme d'autres s'isolent en montagne ou en forêt. C'est ça le sujet.
France Inter, le journal de 13h, Yves Decamp.
2 millions d'euros de manque à gagner, c'est la conséquence de cette épidémie sur la SNCF. Chiffre donné ce matin sur France Inter par le président de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, invité d'On n'arrête pas l'écho. La maison tient bien, explique Jean-Pierre Farandou, qui n'exclut pas toutefois d'en appeler à l'aide de l'État et de devoir ajuster le niveau de l'emploi au volume de l'activité. Ce seront bien 50 à 60% des trains qui devraient circuler à partir du 11 mai, TER et Transilien principalement, beaucoup moins pour les TGV. Mais pour que tout se passe dans de bonnes conditions de sécurité, il faudra que les entreprises fassent un effort en étalant les heures de travail ou en maintenant le plus possible le télétravail.
On sera prêt à condition que le télétravail reste massif et durable. Donc j'encourage vraiment tous les salariés qui le peuvent à poursuivre leur télétravail. Deuxième condition, il faut absolument que les heures d'arrivée dans les bureaux soient les plus étalées possibles. Donc là, c'est mes collègues chefs d'entreprise, s'il vous plaît, organisez-vous pour étaler au maximum les heures d'arrivée. Il y a des discussions importantes en ce moment avec le monde des entreprises, organisées d'ailleurs par les préfets, souvent les préfets de région, en Ile-de-France c'est le cas. On est tous responsables et tous solidaires pour que ça réussisse. La SNCF doit jouer sa partie, c'est normal bien évidemment. Et je le rappelle, les 100 000 cheminots seront là parce qu'on a bien compris qu'il fallait être au rendez-vous du service public des Français le 11 mai. Mais les employeurs doivent nous aider. Il faut l'esprit civique, c'est vraiment tous ensemble. Pour moi, c'est un contrat de confiance. La SNCF va faire son boulot pour que les transports soient possibles. Mais il faut effectivement que chaque Français joue son rôle pour que nous soyons au rendez-vous du 11 mai.
Jean-Pierre Farandou ce matin avec Alexandra Ben Saïd. Quant au plan, à l'éventuel plan de suppression d'emplois, on y est totalement opposé, a réagi aussitôt le secrétaire fédéral de Sudrail. La seule vraie solution pour sortir de la crise, pour être définitivement libéré du virus, on le sait, c'est la mise au point d'un vaccin. Mais avant cela, peut-être d'un traitement. De multiples traitements sont en cours d'évaluation à travers le monde, de grands essais cliniques, notamment en Europe, où tout n'est pas toujours très bien coordonné, voire l'essai appelé Discovery, auquel la France participe et qui teste depuis le 22 mars 4 médicaments. Les hôpitaux français devaient recruter 800 malades sur un total de 3200 en Europe, mais à ce jour, on est loin du compte. L'Europe est un échec sur les essais cliniques, a notamment commenté l'un des responsables de ce programme. Alors, qu'est-ce qui coince, Sophie Becherel ?
Selon Yazdan Pana, infectiologue à l'hôpital Bichat, qui s'exprime dans le journal Le Monde, c'est parce que chaque pays a travaillé pour lui que la coopération européenne se fait mal. Sur les 800 patients qu'elle souhaite recruter, la France en est à 730. Elle peine à trouver les derniers car le pic épidémique est passé. C'est d'ailleurs en Europe que les volontaires manquent à l'appel. 2400 patients allemands, autrichiens, portugais, britanniques annoncés au départ par le consortium français Reacting qui chapeaute l'essai. Pour le professeur Yazdan Pana, l'Europe ne marche pas du même pas, faute de discussions amont suffisantes, parce qu'il y a trop d'essais cliniques lancés en parallèle et en raison de désaccords sur les données à faire remonter.
Alors y a-t-il d'autres raisons, Sophie, pour expliquer ce retard à l'allumage ?
Oui, le d'abord, ce que ne dit pas M. Yazdan Pana, c'est que Discovery coûte 5000 euros par patient. Rappelons qu'il s'agit de tester sur 5 groupes de malades, 5 traitements différents. La France a débloqué les 4 millions d'euros nécessaires pour ses 800 patients, mais elle ne s'est pas préoccupée de savoir si les autres pays européens seraient en mesure de faire la même chose. Or, au total, le coût de Discovery, c'est 15 millions d'euros. Peut-être la France a-t-elle surestimé les capacités financières de ses voisins, voire leur adhésion au projet. Selon nos informations, la Commission européenne s'est saisie de la question. Elle pourrait, en sauveuse, débloquer des fonds pour permettre l'inclusion d'autres patients prochainement. Manque de dialogue, manque de fonds, à quoi il faut aussi ajouter une compétition entre deux grands essais. Dès le 22 mars, en effet, l'Organisation mondiale de la santé a proposé à tous les pays du monde d'intégrer un essai baptisé Solidarity. C'est la même chose que Discovery, mais c'est plus accessible et moins cher. Il n'y a que 3 données à transmettre. Ce n'est pas chronophage pour des médecins débordés par le nombre de malades graves. La force de Solidarity, c'est le grand nombre de patients inclus. Au plus fort de l'épidémie, certains pays européens ont donc choisi de concentrer leur effort sur cet essai Solidarity plutôt que d'intégrer Discovery. C'est le cas d'Espagne.
Sophie Becherel, l'Europe qui s'est montrée efficace, en revanche, en grande partie pour le rapatriement des Européens bloqués partout sur la planète par l'épidémie. 600 000 Européens avaient été surpris par la fermeture des frontières, donc 90% ont pu maintenant rentrer chez eux. Ce dont a pu se féliciter ce matin le chef de la diplomatie européenne, Josep Borrell. Reste 50 000 personnes en situation difficile. Pierre Benazet nous appelle de Bruxelles.
C'est la plus grosse opération de rapatriement dans l'histoire de l'UE, affirme Josep Borrell, et le chef de la diplomatie européenne estime qu'elle a en grande partie été rendue possible par ce qu'il qualifie de coopération consulaire sans précédent entre l'Union et ses 27 États membres. Le Service européen pour l'action extérieure à Bruxelles a coordonné l'opération de rapatriement à l'échelle européenne et a contribué à faire en sorte que les citoyens européens puissent voyager dans des avions affrétés par d'autres États membres que le leur. Cela a permis de réduire les coûts et souvent d'accélérer les retours. 6 000 Européens ont ainsi été ramenés du Népal et 7 000 de Thaïlande, par exemple. Rien qu'en Inde, 9 000 Européens ont déjà été rapatriés dans des avions affrétés par 14 pays de l'UE. Mais les rapatriements y sont rendus difficiles du fait de contrôles de police stricts qui rendent très compliqués les accès aux aéroports, comme au Cameroun ou aux Philippines. Pour autant, l'UE veut continuer à se mobiliser pour les quelques 50 000 Européens encore coincés à l'étranger par la pandémie. Pierre Benazet, France Inter. À Bruxelles.
Voilà, beaucoup pourront rentrer et profiter du déconfinement, double libération. Les Espagnols notamment, confinés depuis 48 jours et qui sont de nouveau autorisés depuis ce matin à sortir, se promener ou faire du sport, malgré le bilan toujours élevé des décès. Plus 276 ces dernières 24 heures, la barre des 25 000 morts a désormais été franchie. Et le sport, justement, après le 11 mai, comment pourra-t-on reprendre nos activités sportives? En individuel, il suffira de respecter les distances, ce qui exclut les sports de contact. Des règles précises seront transmises par les fédérations. En club, a précisé ce matin la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, on ne pourra pas être plus de 10 ensemble à l'extérieur, ce qui exclut les matchs de foot et de rugby. Quant au polémique sur la Ligue 1, l'arrêt de la saison contesté par certains clubs, notamment l'Olympique lyonnais. Pour la ministre, c'est l'occasion de repenser le modèle économique du football professionnel.
Depuis le premier jour, le ministère accompagne toutes les associations, les clubs, les fédérations, les organisateurs d'événements et toutes les entreprises du secteur sportif. Elles ont pu toutes bénéficier des mesures de droit commun, donc le chômage partiel, avec aussi la possibilité pour les entreprises sportives et les clubs professionnels d'accéder aux prêts garantis par l'État pour pouvoir emprunter et répondre aux salaires important de l'autre côté, qui dépassait les 70% proposés par le chômage partiel et remboursé par l'État à hauteur de 4 800 €. Et aussi tous les éducateurs sportifs indépendants qui travaillent aussi en prestation de services, souvent pour des associations qui ont pu bénéficier du fonds de solidarité de 1 500 € par mois. Elles ont pu l'actionner, l'activer dès le départ. Et aujourd'hui, le sport, au même titre que la culture, vont continuer à bénéficier d'un fonds de soutien au fait qu'on va se déconfiner progressivement, comme pour l'hôtellerie, la restauration ou le tourisme. Le sport et la culture, comme ça va reprendre petit à petit, il n'y aura pas d'événement d'ici à minimal mois d'août. Il va falloir continuer à les soutenir.
Roxana Maracineanu avec Matteo Maestracci. La ministre des Sports qui n'approuve pas le commentaire de Guy Dru sur les JO de Paris 2024. L'ancien ministre et champion, membre du CIO, décrivait un projet obsolète et déconnecté de la réalité. Le projet 2024 est un projet responsable, répond Roxana Maracineanu, qui marque une rupture avec le modèle d'avant. Ce seront, dit-elle, des jeux écologiques avec 95% des équipements déjà existants. On parlait de foot, un mot des doubles championnes du monde américaines qui n'ont pas l'habitude de perdre et qui ont pourtant été défaites hier sur le terrain judiciaire. Les joueuses emmenées par la star de l'équipe et militante féministe Megan Rapinoe demandaient d'être traitées à l'égal des footballeurs. Elles réclamaient notamment 66 millions de dollars d'arriérés de salaire. Elles ont été déboutées par un juge de Los Angeles. Mais le combat pour l'égalité continue, a simplement commenté sur Twitter Megan Rapinoe. En bref, il avait été blessé le 23 avril au Mali. Un légionnaire de la force française Barkhane est mort hier des suites de ses blessures à l'hôpital militaire de Clamart. Le brigadier Dmitro Martignouk avait été blessé dans une explosion qui visait le camion-citerne dans lequel il se trouvait. Son décès porte à 42 le total des militaires français tués au Sahel depuis l'intervention française en 2013. Allez, un nouveau rendez-vous dans ce journal pendant 5 semaines, les vendredis et samedis, rencontre avec les auteurs candidats au prix du Livre Inter. Avec vous, Eva Bétan, bonjour.
Bonjour.
Aujourd'hui, Vincent Message pour Cora dans la spirale, édité au Seuil, l'histoire d'une cadre d'entreprise happée par son travail.
Oui, alors début, on le sait, il va se passer quelque chose dans la vie de Cora Salm et ce sera pas bon. On le sait, mais on ne sait pas quoi. Et il y a cette ombre qui pèse, qui est là sur le roman, sur l'héroïne et sur nous, et ça a un côté déchirant. Cora Salm, c'est la femme de 30 ans d'aujourd'hui, jeune femme, jeune mère, jeune cadre dans une compagnie d'assurance, mais le lieu du tragique, ça va être le travail, parce que le travail, ça agit sur notre intimité, parce que nous sommes à un moment du capitalisme qui est devenu, je dirais, inhumain. Nous ne sommes pas dans ces circonstances exceptionnelles. Il est en quelque sorte normalement inhumain. Ça pourrait être un fait divers, c'est beaucoup plus. Il y a une ampleur, il y a un désir d'ampleur dans ce roman, quasiment d'accéder à une dimension de mythe. Et Vincent Michetin, je me dis que cette volonté d'ampleur, c'est comme s'il y avait une responsabilité chez vous de l'écrivain de dire l'époque.
Oui, il me semble qu'effectivement, c'est une des belles choses que la littérature peut faire. Elle peut garder trace des époques qu'on traverse et de tout ce qui les marque. Et c'est sûr que dans la nôtre, la manière dont les grandes entreprises affectent nos vies jusqu'au plus intime, régissent les règles sociales, dont un travail qui est comme ça restructuré assez violemment, comme ce qui arrive pour Cora, ça peut venir perturber jusqu'à notre vie privée, nos rêves, nos nuits. J'avais envie de dire tout ça en racontant à la fois l'histoire d'une femme et celle de l'entreprise dans laquelle elle travaille. On est dans ces années clés, qui sont les années 2010-2012, avec la crise économique. Donc l'entreprise Borrelia, où travaille Cora, n'est pas une entreprise, vous le dites, dont la violence est anormale, caricaturale ou extraordinaire, mais les circonstances, elles le sont. Cette crise vient tout remettre en cause, et ça va bouleverser sa vie, jusqu'à un drame qui se produit effectivement le 8 juin 2012 et qui l'abîme profondément.
Alors, c'est pas un précis d'économie, mais ce qui est très impressionnant, c'est la manière dont vous menez l'économie à nos vies. Il y a notamment cette idée de responsabilité. Chacun se responsabilise et fait faire un peu le sale boulot à celui qui est en dessous.
Oui, c'est pas facile de saisir le monde du travail en littérature parce que c'est des structures souvent complexes avec beaucoup d'acteurs. Mais en même temps, moi, ça me paraissait pouvoir être un formidable terrain romanesque parce qu'il y a des jeux de pouvoir et de séduction, parce qu'il y a des gens qui mentent, d'autres qui chutent. Et donc, j'avais envie que pour Cora, l'intrigue soit comme ça une sorte d'échiquier. Il faut qu'elle repère les adversaires et les alliés, il faut qu'elle anticipe un peu les mouvements des autres, et puis elle a parfois de moins en moins de possibles, elle, à sa disposition. Donc c'est un roman où il y a une perspective multiple, on suit le point de vue de pas mal de gens autour d'elle, dans ses collègues, dans sa hiérarchie, etc. Parce que je voulais pas faire quelque chose de manichéen, je voulais qu'on entre dans les raisons de chacun, qu'on voit ce qui le contraint, à quel moment, en fait, cette vague de la réorganisation, cette vague du management le soulève dans sa vie et quel degré de violence les gens sont prêts à subir et parfois aussi à infliger autour d'eux pour se maintenir en place ou pour continuer à monter.
Avec une sévère critique de l'open space, Vincent Message, vous aimez pas les open space ?
Oh, c'est pas moi qui les aime pas. Ce livre, il s'est construit pas mal sur des voies du réel. J'ai enquêté pendant. Ce livre m'a accompagné presque 10 ans, donc j'ai essayé que la vie de Cora soit emblématique des vies contemporaines et que les gens s'y retrouvent, que ceux qui connaissent l'open space et les contraintes que ça implique, la difficulté à se concentrer, etc., retrouvent ça, et que à l'inverse, les gens qui sont aussi nombreux, qui ne vivent pas en entreprise, comprennent de quoi ils retournent. Il y a des lecteurs qui m'ont dit j'ai donné ce livre à mes parents pour qu'ils voient comment le monde du travail a changé et qu'ils entrent un peu dans ce qui est pour moi mon quotidien.
Et il y a aussi un portrait d'une génération qui est la vôtre, les trentenaires, comme si la vie était finalement, même quand ils ont tout bien fait, ils ont fait des études, ils ont fait ceci, et à l'arrivée, la vie, elle est assez décevante. À l'arrivée, c'est tout ce qu'il y a, l'alternative entre la précarité de l'artiste, mais il faut avoir le courage de le faire, et un salariat avec un boulot, bon, pas extraordinaire. C'est assez pessimiste sur peut-être sur votre génération.
Il y a ça, effectivement, dans Cora, il y a beaucoup de moi-même. C'est pas un livre autobiographique, mais je l'ai vraiment construite dans une proximité avec les questions que je peux me poser moi. Et donc, par exemple, comment savoir quel risque il faut prendre? Effectivement, entre le gouffre de la précarité d'un côté et puis l'impression d'un enfermement ou d'une routine de l'autre, comment on gère ça? Ou bien l'envie de rester multiple, c'est son cas. Elle veut être à la fois une mère, une amante, quelqu'un qui garde une activité artistique ou qui reste consciente du monde politique autour d'elle. Est-ce qu'on arrive à maintenir cette multiplicité face aux contraintes de la vie professionnelle et à la pression qu'on subit? Ça, je crois que c'est des questions qui traversent profondément les gens de ma génération, mais qu'en fait peuvent se poser aussi d'autres gens à d'autres stades de leur vie. Ça, je crois que ça peut parler à pas mal d'entre nous.
La dernière question, Eva.
Oui, c'est la manière, vous faites un livre ample, foisonnant, et la manière dont vous jouez sur l'attente, vous reculez le moment, comme si ça vous faisait mal de dire ce qui lui est arrivé.
Oui, le livre est raconté par quelqu'un qui s'appelle Mathias, qui enquête bien des années après sur ce qui s'est produit pour Cora dans ce 8 juin 2012, et il est fragile par rapport à ce qu'il va raconter. Je crois que souvent le récit, l'art du récit fonctionne comme ça, on a quelque chose de vraiment important à dire, qu'évidemment je peux pas révéler là, et du coup... Parce que c'est difficile de le dire d'emblée et qu'on a envie aussi de montrer tout ce qui y mène, eh ben on retarde. Ça permet aussi cette longueur, je crois, qu'on s'attache aux personnages, qu'on ait l'impression de les connaître, qu'ils existent vraiment.
Mais on a l'impression que vous souffrez, que vous souffrez quand vous lui dites.
Parce que moi, j'ai été profondément en empathie avec cette femme. J'ai construit ce portrait de femme pendant, je vous disais, une dizaine d'années. Donc forcément, quand moi, j'arrivais à certaines scènes que je voulais écrire et qui étaient importantes dans sa vie, qui allaient jouer un rôle décisif, elles étaient dans ma tête depuis longtemps. Elles avaient acquis cette qualité un peu mythique, j'espère, dont vous parliez. Et j'étais au plus près de ce qu'elles pouvaient éprouver à ce moment-là.
Merci beaucoup, Vincent Message, donc en lice pour le livre, pour le prix du livre Inter. Vincent Message, Cora dans la spirale, paru aux éditions du Seuil. Merci à vous, Eva Bétan également. Le temps.
La météo, avec la Fondation de France, la PHP et l'Institut Pasteur, qui unissent leurs forces pour aider les soignants, les chercheurs et les personnes vulnérables. Tous unis contre le virus sur fondationdefrance.org.
Jean-Michel Golinski.
Une tranche de pluie sur la partie centrale du pays entre deux zones de temps plus sec, sous un ciel plutôt dégagé du bassin méditerranéen au pied des Pyrénées, mais avec beaucoup de vent sur les régions méditerranéennes. Du nord au quart nord-est, en particulier de la Normandie au bassin parisien et des Hauts-de-France au Grand Est, des averses possibles, mais devenant de plus en plus éparses au fil de l'après-midi dans un ciel variable. Entre les deux, temps pluvieux aujourd'hui, des pluies plus soutenues sur le relief avec des volumes d'eau plus conséquents sur le nord des Alpes et beaucoup de neige en haute montagne, avec à la clé une vigilance orange, à la fois pour forte quantité de précipitations sur l'Isère et les Deux-Savoie, et pour un risque de crue sur la Savoie et l'Isère, risque de crue qui sera plus sensible à partir de demain. Les températures du même ordre de grandeur qu'hier vont afficher 15 à 25 degrés de la Manche à la Méditerranée.